יצחק, לתפארת, יעקב, לנצח, משה, להוד, אהרון, ליסוד, יוסף, פלוס פנחס, עד המלכות, דוד. Donc les kelim ont été restés. Et c'est ce que nous appelons le zechut avot.
Avot.
Oui. Vous entendez maintenant cette notion du le mérite des pères. C'est ça. Ce sont les pères qui ont restitué la zakut, le zechut des kelim des midot. Oui. Hesed Abraham. Goura, Yitzhak, Tiferet, Yaakov, Netzach, Moshe, Hod, Aharon, Nesod, Yosef, plus Pinhas, et de nouveau un Yesod, et Malchut, David. Alors, les...
Il y a un problème ?
Les Kelim ont été restitués. Et vous voyez, ça a été l'œuvre de ce que nous appelons les pères, Shrut Avot, les sept piliers de la tradition. Et vous connaissez toutes ces liturgies qui correspondent à leur mérite. Les Rosh Hashanot, les Akafot, les Ushpizim de la Souka, c'est eux. Okay. C'est-à-dire les piliers des valeurs sont restitués. Quelle est la tâche d'Israël d'en faire l'unité? Ça, c'est le problème des Banim. Nous avons, si vous voulez, nous sommes à l'abri du Zchut Avot, et la tâche des tribus d'Israël, c'est l'unité d'une Sphira avec une autre. Et ensemble, l'unité de ces 6 qui sont 7. Alors ça fait 12 qui sont 13, mais enfin tous ces symbolismes, on les verra après. Vous voyez que ce n'est pas les symbolismes qui sont importants, mais ce qu'il y a dedans. Okay? C'est clair? Et en fait, on pourra dire que historiquement, j'anticipe un peu, historiquement, nous n'avons plus qu'un problème à résoudre. La conciliation entre Yesod et Malchut. Tout ça a été déjà fait. L'unité des 6 est déjà faite. Mais il s'agit de l'unité des 6 à travers la 6e et la 7e, Yesod et Malchut. C'est-à-dire, c'est la rencontre entre Joseph et Judas. Et Judas. Entre ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David. Vaïga Shela. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara Smicha de Geoula et de Tfila. Bon. Tout ça reste obscur, c'est pas grave, parce que c'est trop clair. Et alors, on revient au problème. Quelle était donc la cause de Shmirat HaKelim, c'est le fait que l'épreuve donnée à la créature pour être, c'est l'unité des valeurs. Et tant que l'unité des valeurs n'est pas constituée, alors il y a littéralement Mashber, c'est-à-dire crise. C'est-à-dire les Kelim, les véhicules de telle ou telle valeur indispensable à la vie authentique, à la vie vraie, sont détruits, cette valeur remonte. Si vous voulez, tout se passe comme si le ciel se vide. Et c'est les Avot qui ont reconstitué le ciel. C'est le sens de Yirat Shamaïm. Quand nous disons Yirat Shamaïm, il ne s'agit pas de Dieu créateur. Il s'agit des Midot. Heureusement que vous m'avez interrompu, j'allais parler d'autre chose. Oui,
quel est le lien entre le niveau individuel et le niveau collectif?
C'est-à-dire, le lien, c'est que c'est le problème au niveau collectif, c'est le problème au niveau individuel, et à tous les niveaux, entre l'individuel et le collectif, et c'est le problème de l'universel. C'est l'épreuve qui est donnée à l'histoire. Pour l'individu, à travers sa lignée, pour le peuple, la société de laquelle il participe, pour l'universel humain tout entier, pour notre monde, y compris toutes les autres manières d'être, et pour tous les univers ensemble. C'est ce processus-là qui est en cours dans l'histoire des mondes. C'est-à-dire la restitution des Kelim, premier stade, le Zchut Avot, et le tikkun de l'unité des valeurs, qui est le problème des Banim. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'unité des valeurs. Mais donc, finalement, c'est pas difficile à comprendre. Okay? Et ce problème de Shvira Takim. Et alors, j'en arrive à la question de mademoiselle tout à l'heure. Vastikha, hier, Ken, comment vous appelez?
Je sais.
En hébreu? En hébreu? Shvira Takim. Mais vous en aurez. Et alors, de quoi je parlais avant de parler?
La question de...
Oui, que finalement tout se passe comme si le problème est particularisé dans ces 6 sphirotes qui sont 7. C'est-à-dire qu'en fait, ces sphirotes-là restent intégrales la Shmirat HaKelim ne les atteint pas. Et notre monde est logé à l'abri de ces trois sphirotes extérieures. Ok ? C'est clair ? Alors, je vous dirai quelque chose de cette différence. Ici, ce sont les sphirotes que l'on atteint par la connaissance. Et la conduite morale de l'homme n'influe pas. Sauf lorsqu'il y a saturation de la destruction des valeurs morales. Vous voyez ici, ce sont les termes que nous allons avoir, c'est super intellectuel. Un exemple, un théorème de mathématiques est vrai, quelle que soit la qualité morale du mathématicien. Mais il y a des limites, il y a une saturation. Et lorsque cette civilisation mathématique est de façon irréversible immorale, alors sa mathématique elle-même est détruite. Et le théorème remonte. Et il faudra attendre une autre éternité pour qu'il redescende, quand on aura retrouvé l'équation.
Vous dites, les trois premières valeurs sont les...
Alors, les... Oui, oui.
C'est les trois premières qui...
Je dis, Keter, Chochma, Bina. Vous entendez en hébreu, ce sont des mots qui sont au-delà des valeurs morales. Parlez plus fort. J'y arriverai pas aujourd'hui. Vous avez toute la vie pour ça. Et pour le moment, vous apprenez les schémas. Okay? Regardez, simplement, je vous signale que ce sont des niveaux... Une minute. J'ai vu, une minute. Ce sont des niveaux qui ne sont pas atteints par le comportement dans l'ordre du mérite moral. Okay? Mais jusqu'à un certain rendez-vous de saturation. Il y a une infinie patience, on a vu ça déjà hier ou avant-hier. Oui. Mais il y a un rendez-vous du terme de la patience. Et alors que là, les noms des sphirotes ne sont plus appelés sphirotes d'ailleurs, mais midot, qualité, sont d'emblée en termes moral. Okay? Chesed, être capable de charité. Gvoura, être capable de justice. Tiferet, être capable de vérité, etc. Okay? C'est de la morale. D'emblée. Alors vous voyez que je m'arrête là pour cette idée. Et la différence est de cet ordre-là.
C'est le chesed qui soutient les six autres, je n'ai pas bien compris tout à l'heure, comme je le montre au tableau. C'est le chesed, le quatrième sphira qui soutient les six autres.
Non, c'est-à-dire la sphira d'Akilim commence par chesed et se détruit jusqu'à Malchut. Et par conséquent, vous voyez, la restauration, c'est le tikkun, on commencera surtout demain, je ne veux pas trop... Vous mélangez les notions, mais vous devinez déjà. Le tikkun va se faire de bas en haut. Il faut d'abord reconnaître le Créateur comme Melech, Malchut. Et ensuite, on monte à Yesod, Bechenava, jusqu'à ce qu'on restitue le ciel qui a disparu. Simplement, j'indique un peu pour ceux qui connaissent les versets. C'est un peu ce qu'indique ce verset que la Torah nous emploie. Hanistarot, l'Hashem Elokeinu, Ve'aniglot, l'Anul Banenu Adonam. Hanistarot, c'est les trois supérieurs. Aniglot, c'est les sept inférieurs. Je ne traduis pas, je dis pour ceux qui connaissent le poème. Et Anistaros, l'Hachem Elokeinu, et Aniglot, l'Anul Banenu Adolam. Ça, c'est notre travail. Anistaros, Anistar. Et d'une certaine manière, oui. L'homme n'invente pas ce qui se passe là. C'est le Créateur qui l'a émané. La vérité ne s'invente pas, elle se redécouvre. Mais il construit ce qui se passe là. La Kedusha, le mérite moral. D'une certaine manière, à ce niveau du monde, tous les hommes sont enracinés. La mathématique est universelle. Okay? À ce niveau-là, Israël est radicalement différent de tous les autres hommes. La morale. Est-ce que c'est clair? Okay. Vous trouverez ces textes qui disent les Oumata Olam sont enracinés dans Bina, mais ils n'ont aucune participation à ce qui se passe dans le ciel. Ken. Je dirais ceci, c'est que la communication avec ces trois sphirotes supérieures est coupée à un certain niveau de saturation d'immoralité. Et oui, et c'est ce qui peut-être est en train d'arriver à la nôtre. C'est-à-dire, imaginez, je ne sais pas comment dire, que la saturation d'immoralité fasse qu'il y ait une destruction des bibliothèques. Ça peut arriver. Okay? Il va falloir tout recommencer à zéro. Et toute cette élaboration sophistiquée des connaissances qui sont dans les bibliothèques, eh bien, finalement, disparaîtront. Et alors, vous aurez peut-être un jour un certain Powell, ça a écrit un livre comme ça, Le Matin des Magiciens, qui a fait un peu de futurisme comme ça. Je reprends, c'est un livre ambigu, enfin, comment dire, pas agréable à lire. Hein. Ma pas du tout, pas du tout. Non, non, peu importe. Enfin, le livre, je l'ai lu une fois il y a longtemps, je me rappelle une impression d'impureté. Bon, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est pire que pas cachère, c'est trèfle. Comme... Mais, les éditions du trèfle. Mais, il dit quelque chose là-bas. Imaginons, comment dire, un cahier de notes d'un physicien d'une grande civilisation perdue. Des modernes balbutiant sur les schémas de ce cahier de notes, vous écrirez des bibliothèques de cabale là-dessus. Attention aux charlatans. Hein? C'est-à-dire, projeter l'imagination sur des notes de cours d'un cabaliste d'il y a 3000 siècles. Et on va dire, c'est de la mystique. C'est tout simplement du désordre mental. Hein? Mais ce qui risque d'arriver, une minute, ce qui risque d'arriver pour les manuels que nous avons dans nos bibliothèques aujourd'hui. Peut-être que dans 6000 ans, j'en sais rien, enfin tout ça, je dis des choses qui n'ont aucun sens. Peut-être que dans 6000 ans, on trouvera par hasard chez les australopithèques de l'avenir, parce qu'il faudra qu'ils recommencent après les radiations atomiques, on trouvera un manuel de physique. Alors vous aurez une chaire de cabale à l'université de Strasbourg. Alors, je ne sais pas s'il y aura Strasbourg. Mais... Vous avez compris un peu l'idée. Alors, oui, quoi.
C'est du Matin des Magiciens
que... Oui, oui, oui.
Oui, parce que je voulais ajouter que quand vous trouvez Saint-Frissonnier, c'est en collaboration avec Jacques Vergier, et que Jacques Vergier était d'origine juive.
Et voyez, qu'est-ce que les origines juives sont capables de faire.
Oui, mais ils se sont fâchés par la suite.
Oui, lequel est fâché avec l'autre.
Jacques Vergier s'est fâché avec Orwell.
Écoutez, je vais vous dire, vous savez, de la société juive, du peuple d'Israël, sont sortis tous les Hasvechalot, toutes les aberrations possibles et imaginables. Et qu'est-ce qu'on a fait cadeau à l'humanité? De cadeaux empoisonnés.
Mais ça nous retombe dessus aussi.
Oui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à ça. Mettez-vous à leur place.
Moi, je voudrais savoir pourquoi on est à Rome, là.
Où ça?
Qu'est-ce qu'il a fait à Rome?
Ah, à Aaron, oui. Rhodes, je ne vous ai pas traduit tout ça. Rhodes, c'est la splendeur. Ici, vous avez l'irruption de l'esthétique dans la sphère de Rhodes, qui a comme doublé Rhodes vers Hadar. Okay. Tout va bien Meyer, tout va bien.
Je dois aller voir des parents.
Moi, j'ai vu ton fils il y a quelques jours, il va très bien, Haïfa. Alors, on revient au problème. Ici, c'est la splendeur. Et pour la tradition, c'est la splendeur qui s'exprime dans les habits du grand prêtre. Écoutez, aujourd'hui, pour pas trop encombrer le vocabulaire, on traduit pas les sphéros. Okay? Demain, on les traduira. Oui, c'est-à-dire que Moïse sans Aaron ne peut pas mener à l'unité des valeurs. Aaron sans Moïse ne peut pas l'idée mener à une idée de valeur. Vous voyez pourquoi la Torah leur est donnée aux deux ensemble. Et de la même manière qu'Abraham et Isaac sont indispensables pour que Jacob naisse. Et pour que Jacob devienne Israël, il faut traverser Moïse, Aaron, Joseph, David. Et tout ça, vous avez toute la vie pour vous habituer à la cohérence des détails. Découvrez les schémas. Et que, rappelez-vous, qu'ils sont simples. Et que tout ça, c'est les schémas du monothéisme. C'est le schéma Israël purement et simplement. C'est l'objectif. Ken. Oui.
Tu as dit du câble qui est entré dans l'espace.
Et le temps.
Ça fait bouquer le temps.
Et le temps.
C'est un schéma qui ressemble extraordinairement. Moi, je trouve extraordinairement à ce qui se passe au moment de la fécondation.
D'accord. C'est ce schéma-là aussi. Nahon. Astrulabe, blastrulabe, gastrulabe. Nahon. Vous vous rappelez du mythe l'œuf de Léda? Vous avez vu en hébreu, l'œuf de Léda. Qu'est-ce que ça veut dire Léda en hébreu? Vous connaissez l'œuvre de Leda. C'est du latin, mais c'est pas grave. Donc, Ken.
Pourquoi dans les surotes, il y a normalement on devrait dire il y a Yaakov Yosef, puisque dans l'ordre chronologique c'était Yaakov, après il y avait Yosef, puis après
il y a une controverse entre le Ramak et le Hari là-dessus. Très bien, oui, les ancêtres talmudistes. Mais je vais te montrer ça très rapidement maintenant. C'est pas trop compliqué, mais c'est une bonne question. Je vais la répéter. Écoutez, je vais vous mettre un tout autre schéma. Mais je vais aller rapidement, parce que ceux qui peuvent attraper le Kelly attrapent les autres une autre éternité. Et en vous citant un enseignement du Shla. Le Shla, c'est Shnelu Chotabri. Il s'appelait le Rav Ishariaou Horowitz Halevi. Vous avez entendu parler du Shla, un très très grand rave d'origine espagnole, mais qui est né en Russie. Et dans un patelin qui s'appelait Horowitz, c'était le nom du seigneur Goy. Et lui s'appelait Halevi, alors on l'appelle Halevi Horowitz. Et il explique comment, à partir de ce point central dont je vous ai parlé, que le Hari appelle la Nekuda Emtsarit, le point central. Okay. Et vous vous rappelez que c'est toute cette quantité d'êtres qu'il y avait dans ce point-là, qui n'a pas d'épaisseur, qui est en jeu dans l'histoire du monde. Puis demain, lorsque nous parlons du Tikkun, je reprendrai le problème. Alors il nous montre les lettres du tétragramme, des quatre lettres du nom de Dieu, c'est-à-dire de Shmo, pas Hu. Shmo. Hu est informulable. Shmo va exprimer la relation entre lui et le monde, que nous appelons l'être. C'est la relation entre le Ensof et le monde qui est appelée l'être, la Havaya. Et je vais faire ça rapidement. Et il nous montre comment se constitue la Havaya, l'être qui fait être le monde. Pas le monde, l'être qui fait être le monde. Donc à partir du Yud, vous savez comment on écrit un Yud ? Il y a Kacha.
Il y a une ligne.
Kutso Shel Yud, et puis Yud. Ce petit bout du commencement du Yud fait allusion à Keter. Parce que c'est par là que la Havaya s'accroche au Ensof, le Tino. Vous vous rappelez ? Et si on enlève ça, alors de bas en haut vous avez Spinoza, de haut en bas vous avez Bergson, mais c'est plus le Genèse. Si on enlève ce petit machin-là, réfléchissez à ce que je dis. Et alors apparaît ensuite le Yud. Et vous savez comment on écrit Yud ?
On écrit Yud comme ça.
Ken, suivez bien. Bon, alors ici nous avons Keter. Là nous avons Chochma. Alors ce qu'il y avait intérieur au Yud, c'est ce Rav et ce Dalet qui ensemble font Yud. Rav et Dalet, ça fait 10. C'est les 10 qu'il y a dans les 10 du Yud. Alors, ce qu'il y a dedans se met dehors. D'abord par le Dalet, ensuite le Rav rentre dedans. J'ai pas écrit « Hemekouf ». Ensuite, ce Rav qui est en gestation dans ce Dalet descend ici, mais il n'a encore pas de tête. Et après, le Dalet descend. Après, ce Rav descend ici, et c'est là qu'il prend une tête, et le schéma est achevé. Yud Kevak. Vous y êtes ? Bon. Et alors, c'est le Light Pashtut de Olamut. Bon. Alors ici, nous avons un problème. C'est ces 6 firotes là. Vav. Yeah. C'est clair ? Je suis en train de répondre à la question de David. Il a posé comme question, pourquoi on s'occupe de Moïse et de Aaron avant Joseph ? Puisque nous avons un verset qui dit « Elle est Tolot Yaakov, Yosef », tout de suite. Mais comment on écrit Vav ? On écrit Vav comme ça. C'est clair ? C'est-à-dire le Vav dévoilé qui est Yaakov comporte tout de suite le Vav caché qui est Yosef. Clair. Alors, dès que ce Vav se dévoile, il y a aussi le petit Vav, El et Toldot Yaakov Yosef, de Yesod. Mais il faut attendre Moïse et Aaron pour que ce Vav grandisse, soit capable de venir dans Malchoud, et c'est grâce à Pinchas, qui est Eliyahu. Bon, je suis allé très vite pour vous montrer que la réponse existe, et vous avez toute la vie pour l'expérimenter. Bien, alors on va peut-être terminer cette analyse là-dessus. Quelle heure est-il ?
On attend encore.
Oui, on a encore une demi-heure. Bon, je vais terminer dans 5 minutes, et puis vous aurez une demi-heure pour les questions de dégagement, si vous voulez. Donnez un exemple. Ok. Et puis quelqu'un m'a posé la question hier. Qui m'a posé ? Ah non, il n'est pas là. qui était au fond, qui m'a posé la question sur Haya ve Haya Yie. Il n'est pas là.
Non.
Alors vous lui transmettrez là.
Oui, ce
vav là. Ce vav là fait allusion à ces six sphirotes. Alors vous allez prendre une première correspondance. Les trois sphirotes supérieures, on les appelle Shmei HaShamayim.
Keter Bina Chokhma.
Les cieux des cieux. Shmei HaShamayim. Vous voyez, une expression qui en français ne veut rien dire sinon poétiquement. Okay? Elle a un sens très précis en hébreu. Shmei HaShamayim. Ces six sphirotes-là s'appellent Shamayim. Et la septième s'appelle Aret.
Malchut, c'est Aret ?
Oui, Malchut, c'est Aret. On donne le nom de Tiferet à l'ensemble des six, parce que c'est la principale. Au fond, il y a cinq sphirotes, et pas dix. Il y a Chochma, Slicha, Keter, Chochma, Bina, Tiferet et Malchut. Seulement, Tiferet a elle-même six sphirotes. Six et quatre, dix. Et c'est clair ? C'est vrai que Vav, c'est six. Mais comme Vav, c'est deux Vav, ce six, c'est douze. Et pour en faire l'unité, c'est treize. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je reviens ici. Alors, on va faire un petit peu d'hébreu sortilège. Là. Mais c'est simplement pour vous indiquer une perspective de réflexion. Parce qu'on ne sait pas encore assez d'éléments pour comprendre en détail ce que je vous ai expliqué ici. Ça va être un peu rapide, mais retenez l'idée d'imprégnation. Voilà, comment la Torah nous appelle l'état originel des éléments du monde en jeu dans le chaos. Elle nous les appelle les Maïm. Veruach Elohim, Merahefet, Alpene Hamaim. On traduit, et l'Esprit de Dieu flottait, planait à la surface des eaux. Bon, indépendamment que, dès qu'on descend un peu dans l'expérience, on s'aperçoit que le milieu originel de la vie, c'est bien les eaux. Mais c'est la manière dont l'hébreu se sert pour dire les éléments du monde donnés dans cette lumière. Et vous savez qu'en hébreu, c'est toujours au duel qui est un pluriel particulier. Il n'y a pas de singulier à Maïm. Mais s'il y avait un singulier, ce serait le mot ma. Que vous avez d'ailleurs en arabe, pour dire l'eau au singulier en arabe, on dit le ma. Ma. Mais qu'est-ce que ça veut dire ma en hébreu? Ma. Une chose.
Bon.
Alors oui, les Maïm, c'est l'ensemble des quoi? Des quoi, on ne sait pas, mais on sait, des éléments. C'est clair? Alors, quand ce yud, le monde, dans son état de projet, et donc de perfection absolue en tant que projet, vous rappelez la conférence de lundi soir, s'appelle Ramaïm. Mais quand ce yud descend dans l'espace et le temps, il devient un rav. Et qu'est-ce qu'on obtient? Moum. Et qu'est-ce que ça veut dire, moum?
Le défaut.
Oui? Quand les choses d'en haut descendent en bas, il y a le défaut qui est là-bas. Okay. Vous rappelez ceux qui ont lu les versets concernant les sacrifices d'ascension, comment dire ça en français, Ola. Okay. Alors, comment dit le verset, Asher lo'ala aleha ol, Asher enba moum. On ne fait remonter en haut que ce qui déjà en bas n'a plus de moum. C'est-à-dire là où il y a un tikkun. Vous suivez? Mais quelle est la valeur numérique de Moum? C'est précisément la valeur numérique du mot qui signifie la nature, la terre. Oui?
Moum, 86.
40 et 46. Alors, ça veut dire que les Maïm d'en haut, quand ça descend en bas, c'est Moum. C'est les choses de la nature, là où il y a le chaos. Vous voyez comment c'est relié au fait que ce sont ces sphirotes-là qui sont l'objet de la Shvirat HaKelim. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, je vais simplement vous donner une autre indication pour que vous voyez un peu la richesse de ces choses-là, mais encore formellement. Comment dit le verset qui nous formule le projet de l'histoire des Maïm? Les Maïm sont donnés à la Shvirat HaKelim, et ça devient Moum. Donc le Tikkun, c'est restituer le Moum en Maïm. Et nous verrons demain, rappelez-moi si j'oublie, parce que c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y a d'acquis dans ce jeu apparemment gratuit de l'aller et du retour de la lumière, okay? S'il s'agit de refaire ce qui a été défait, s'il n'y a pas d'acquis dans cette histoire, nous ne serions pas dans l'histoire de la Bible. Il faut que nous comprenions qu'est-ce qui est acquis dans ce tikkun de Shvirat HaKelim. Parce que sinon, nous serions dans une mentalité que l'on trouve, surtout dans les traditions extrêmes orientales, d'une espèce de jeu gratuit de l'être qui se défait et se refait. Ce n'est pas du tout l'atmosphère de la Kabbalah juive. Il y a un acquis. Il y a un projet du Créateur. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas un dieu gémurge qui joue à casser des mondes pour les refaire comme un enfant joue à agencer des cubes et à défaire le château de cartes pour le refaire. C'est pas ça. On est bien le problème.
D'où vient cette cassure de la...
Oui, cette cassure, nous l'avons étudiée tout à l'heure. Vous voyez qu'il faut du temps pour intégrer tout cela. Dès qu'il y a le projet d'un monde qui apparaît, c'est un monde à l'état de chaos qui est donné à une histoire de tikkun. Et ça ne peut pas être autrement. Nous avons vu comment le Rav s'évanouit. Alors attendez, quel est le verset qui donne le projet de la destinée des Maïm? C'est Ikavu Hamaïm Bemakom Echad. Je vous donne la référence? Alors vous allez le trouver dans le premier chapitre.
Dans le deuxième jour?
Dans le premier chapitre.
Dans le deuxième jour, ça.
D'accord. Non, deuxième. Troisième jour.
Troisième.
Vous allez prendre le verset 9. Vayomer Elohim, Ikavu Hamaim, Mitachat Hashamaim, El Makom Echad, Veteraya Yavasha Vayichen. Comment on va traduire ça? Ça veut dire, et que les eaux se rassemblent sous les cieux en un seul endroit, et que la terre apparaisse. Et la terre, c'est le projet du Créateur. Alors, Ikavu, c'est la même racine que Kav. Ikavu. Se rassembler, le Kav, c'est ce qui unit. Et ça veut dire littéralement qu'il y a un Kav entre les eaux et les eaux. Ikavu à Maïm. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le mot de Maïm. C'est un lien entre même et même. Entre les mêmes. Il y a un Yud. Alors ce Yud descend, c'est le Vav, et c'est ça le Kav. Et si je mets un même là, et un même là, Makom. Oui. Et quel est l'objectif? C'est précisément que le Moum devienne Makom.
Makom, c'est avec un couf, non?
Avec un couf. Parce que le Rav est remplacé par un Kav. Oui, ça fait tout à fait une conversation téléphonique en hébreu. Anir à la Kav. Oui, là derrière, il y a un mot très important, c'est Tikva. C'est l'objectif de l'histoire du monde. Et comment on appelle un makom où les maïm se sont rassemblés? La mikvé. Oui, comment ça s'organise? Bien, alors on arrête les découvertes pour aujourd'hui. Et nous avons comme ça 20 minutes, une demi-heure, s'il y a des questions. Et puis demain, vendredi, nous apprendrons quel est le processus du tikkun. Et alors dimanche, on fera une récapitulation, enfin, je suppose qu'il y aura d'autres qui ont pu venir cette semaine. Préparez vos questions, si j'ai des réponses, je ne sais pas.
Dimanche matin.
Ok, de 10h30 à midi. À 10h30, ça commence à 3h30, vous avez une conférence, et ensuite, 2h après, vous avez la table ronde de toutes les conférences. Et le soir, c'est Hanouka.
Je vais vous demander.
Oui, alors, si vous avez des questions sur le sujet d'aujourd'hui, okay, ou d'hier. Oui. Parlez plus fort. Ça, je ne vois pas où vous avez lu ça, mais vous me direz, vous me donnerez la référence, mais le verset que je vous ai cité parle des maïm d'en bas, que les maïm d'en bas, qui sont dans l'état de dispersion, de chaos, se rassemblent, s'unifient. C'est pour ça que je vous ai relié à ce que nous avons lu juste avant, que l'objectif, c'est l'unité des valeurs. Bien.
Est-ce que le mot séphira existe dans le Tanakh?
Le mot qui existe dans le Tanakh, c'est le mot sapir.
C'est la même racine.
Que? C'est la même racine. Mais, oui. Et... votre question, si j'ai compris, c'est parce que nous avons commencé à Abraham.
Vous avez commencé par
Chesed, c'est-à-dire... D'accord. Mais ça se trouve avant.
Vous avez trouvé au-dessus, mais on a laissé
Non. La première phrase, oui, pas la deuxième. Ça se trouve dans l'histoire d'un monde de ces six sphirotes antérieur et qui a été détruit. En particulier effacé par le déluge. C'était cette tentative-là, mais échouée complètement. Il a fallu qu'on arrive à Abraham, qu'on appelle le nouveau premier homme, pour que ça entre dans l'histoire de l'espoir d'une réussite. Non. Il a communication, mais... Vous voyez que toutes ces choses-là, il faut procéder par approximation successive. Et nous avons là l'ouverture, si vous voulez, du premier panorama. Toutes les questions de détail sont à un certain moment de l'analyse, mais il faut des années pour y arriver. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Au fond, si de ce séminaire on a pris au moins cela, ça existe, c'est l'essentiel. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous avez 40 ans pour étudier, pour arriver à la LEP. Bon.
Vous parlez du talit, les femmes ne peuvent pas se mettre le talit.
J'ai parlé du talit, moi.
On a parlé un petit peu du talit.
Rappelez-moi. Vous vous appelez pas Jeanne d'Arc, hein ? Attendez,
vous avez
parlé
des fils qu'il y a.
C'est moi ?
Je vais vous demander une question.
J'aurais pu, mais c'est elle.
Non, mais c'est même, comme c'est la même semaine de cours.
D'accord. Ken.
Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire que vous parliez tout à l'heure de cas qui sont éclatés des kélims qui ne pourraient pas supporter un degré. Est-ce qu'il y a des exemples, quelque chose un peu de Nietzschean, mais d'un point de vue spirituel, comme ça, de tentatives et que.
Attendez, là encore vous avez deux problèmes. La première question et la deuxième. Où est rentré Nietzsche là-dedans ?
Non, Nietzsche, c'est très mauvais, enfin comme comparaison, je veux dire, ça présente une ambition de l'être, une ambition très sincère.
L'histoire de Lot.
Aller trop loin spirituellement.
Ah, vous ajoutez autre chose. Naron, ça c'est prométhéen. C'est-à-dire quelque chose qui serait un processus d'anticipation, allant trop vite.
C'est ça.
Et alors ça éclate. Mais je vais donner un exemple. Est-ce que c'est bien avec vous, nous avons étudié ça le premier cours. Ce schéma des personnages du Tikkun, depuis Abraham jusqu'à David, et qui est accompagné par deux lignes de rivalité. Vous vous rappelez, les antagonistes et les rivaux.
Ah oui.
Même prenez l'histoire de Lot comme caricature d'une tentative parallèle à celle de la constitution de la vertu d'Abraham, mais qui tout de suite bascule dans l'impureté, à cause de anticipation messianique accélérée. Je vais vous dire ça en coup de projecteur. Vous avez compris les mots ?
Oui.
Regardez, premièrement, vous voyez que dans l'histoire de Lot se passe une imitation de la vertu d'Abraham et dans l'impureté. Prenez par exemple la scène de l'hospitalité chez Lot, la scène de l'hospitalité chez Abraham. Chez Abraham, c'est angélique, c'est propre, c'est kasher, hein ? Tahor, kadosh. Chez Lot, c'est la touma de la boucha de Gilo Arayot absolue. Vous voyez la différence ? Relisez la Bible. Hein. Et après, il arrive une catastrophe dans cette famille. Et puis, on nous raconte une scène où les deux filles de Lot font ce qu'elles font avec leur père. Oui. Et qu'est-ce qui se passe là ? Alors, essayons de plaider ce dossier. D'ailleurs, l'aînée et la cadette n'étaient pas au même niveau de vertu. L'aînée était très vertueuse, c'est la cadette qui était débauchée. Mais enfin, il faut lire le Midrash attentivement. Qu'est-ce qui se passe ? Imaginez que cette famille se croyait être les rescapés de l'humanité. Hein ? Et alors, l'avenir de l'humanité, il faut passer par là. Il y a une tentation messianique dans l'impureté. Est-ce que c'est clair ? Eh bien, ce qu'il y avait d'impur, là-dedans, va être préservé dans le récit biblique. Jusqu'à ce qu'il se transfigure, et la même scène va revenir dans la pureté, avec Ruth, descendant de Moab, donc de Lot et Boaz. Vous voyez le processus ? Est-ce que c'est clair ? Okay. Voilà. Vous voyez, à ce stade-là, une espèce de... On veut forcer le destin, mais dans l'impureté. Alors, il y a Shvirat HaKelim.
Mais n'y a-t-il pas des exemples encore plus tragiques, enfin, vraiment sombrés dans la folie ?
Eh bien, écoutez, je ne vous dirai pas quel est l'exemple que vous cherchez, parce que vous ne devez pas vous y reconnaître.
C'est peu clair. Je ne sais pas si c'était les fils d'Aaron, enfin, qui sont morts, je crois que c'était le... Je ne sais plus si c'était c'était le jour de Kippour, mes souvenirs sont peut-être un peu confus. Quand ils voulaient vraiment en offrant le sacrifice, je crois qu'ils ont été trop remplis de lumière.
Oui.
Il y avait une histoire comme ça.
Et le feu est remonté. Ça peut être aussi. Mais ça, c'est pas dans l'impureté. Bikrovaya Kadesh. Mais c'est ça que je voulais pas vous citer. Il faut pas chercher des courts-circuits. Les courts-circuits, c'est de l'autosuicide. Et même si c'est le suicide dans la gloire, c'est le suicide. La mystique juive est accrochée à la terre. Il faut s'accrocher à la terre pour regarder dans le ciel. Sinon, c'est le blasphème. On refuse le processus de la création. Je veux remonter en haut. Eh bien oui, mais est-ce que tu mérites déjà? Attends. Sinon, qu'est-ce que tu veux être? Une étoile dans le ciel? J'ai pas besoin de toi pour ça. J'ai beaucoup d'étoiles dans le ciel. J'avais besoin de toi sur terre. Remonte, mais au rythme qu'il faut. Ceux qui cherchent le court-circuit de la mystique se pètent. Et même si l'embrasement est dans la gloire, c'est quand même l'embrasement. Et c'est pourquoi, bien que les enfants d'Aaron, c'est kadosh, ils sont condamnés. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut pas faire. Vous suivez?
Est-ce que la vie, je ne sais pas, ça peut penser un peu à la vie d'une grande étoile, une étoile géante. Il y a un phénomène de
sinusoïde. Attends, rien.
Mais ensuite, de la matière qui est un trou dans son ventre, repart en énergie. Bon.
Ça peut être une illustration poétique, scientifique, mais c'est association d'idées. C'est pas faux. Mais c'est schématique, vague, générale. Et encore une fois, pour comprendre les textes de la tradition juive, qui nous ont gardé cette tradition humaine qui s'appelle la Kabbalah, il faut les lire au niveau des valeurs morales, pour commencer à y comprendre quelque chose. Après, tout le reste vient après. Vous comprenez? D'abord, il faut faire le tikkun des valeurs morales. Le reste, après, s'en vient.
Okay. Comment peut-on lire ce deuxième débat par rapport à la liberté de la matière? La matière est-elle créée
libre? À quoi vous faites allusion? À l'autonomie de la matière avant que l'homme n'apparaisse. Parce que la matière, je pourrais parler de liberté de la matière dans les 6 jours. Dès que l'homme apparaît, tout ce qu'il y avait de liberté dans le monde se réfugie dans l'homme. Et la matière est figée dans le fonctionnement de la nature.
La matière
de l'homme, son corps.
La matière cosmique.
C'est-à-dire à la limite, la matière cosmique, si vous voulez, mais en tant qu'elle est le corps de l'homme. L'homme, c'est pas son corps.
L'esprit, non.
Et finalement, tout ce qui est liberté dans le monde du créé, de l'origine, se réfugie dans l'homme. Et au niveau de son vouloir, de sa volonté. Il y a un niveau de l'âme humaine qui est libre, c'est la volonté. C'est ça qu'il y a de libre dans le monde, la volonté de l'homme. Et vous voyez à quel point l'homme peut se donner à la perte de liberté. Lorsqu'il se considère, et d'abord c'est des idées, mais ensuite ça devient de la réalité, un être de nature. Et alors il se complaît dans l'insertion d'une généalogie animale, évolutionniste. Je reviendrai souvent sur ce sujet, parce que c'est une caractéristique d'un trauma de la civilisation contemporaine. Laissez-moi terminer ça. C'est-à-dire, se définir avec véhémence comme n'étant qu'un être de nature. Et donc privé de liberté. C'est cette obsession de l'homme moderne de se prétendre descendant d'animal. Alors que ce n'est pas le récit biblique. Et sur ce point, je reviendrai peut-être dimanche, sans doute dimanche. Okay.
Que, le kippour, c'est une démission.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle cache? Nahon, c'est une démission, mais qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache la panique devant la morale, devant le projet moral.
Cette panique devant le projet moral, est-ce qu'elle n'est pas la résultante d'une non-connaissance culturelle? Et qui vient de cette non-connaissance culturelle?
Je veux dire, moi j'ai une réponse qui peut vous paraître comme une obsession, parce que je dis ça depuis 40 ans, ce que ça cache, c'est l'antisémitisme. Parce que finalement, l'obstacle, c'est là. Parce que finalement, la moralerie, il faut la prendre des juifs. Et des juifs, on n'apprend rien. Et vous avez compris ce que je veux dire? Apprendre ça des juifs.
À propos des aïeux, propos des avis, c'est la seule mitzvah.
J'ai rien entendu, parlez plus fort.
À propos des avis, c'est la seule mitzvah supplémentaire. À part les schémas mitzvah, pour les avis, la seule mitzvah qu'on lui demande supplémentaire, c'est
Et voyez, vous lisez approximativement des sources approximatives dans votre mémoire. Une chose qui se mélange.
Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout au début, lundi. Si vous voulez utiliser un raisonnement personnel, un chidouche, un renouvellement de sens, sur des bases traditionnelles, commencez par les citer exactement comme elles sont. Sinon, c'est de la pseudo-pensée. Faites attention à ça. Dans les minutes, ce qu'on demandait d'Ésaü, c'est d'être Israël, c'est d'être Jacob, il est le frère jumeau. On ne lui demande pas une mitzvah supplémentaire particulière, on lui demande d'avoir le courage d'être ce que Jacob est. Et c'est à lui qu'on demande ça. Et je voudrais répondre à la question « peut-il l'être ?» Il y a dans la salle des personnes qui ont fait la preuve que c'est possible. Et le premier dans l'histoire, c'était Abraham. C'était un goy qui est devenu juif. Donc c'est possible.
Moi, je voudrais poser une question, parce que vous dites que la synagogue, c'est l'unité des valeurs. Est-ce que, en fin de compte, dans toute la notion du Dieu, hein, c'est pas qu'à travers toutes les contradictions, tous les trucs, l'individu retrouve une unité par la morale.
C'est ça.
C'est
cela qu'on appelle l'accès à la sainteté. Et alors, je vous dis un secret pratique. À l'échelle individuelle, chacun d'entre nous, dans sa lignée de réincarnation, j'ajoute ici dans un tout autre chapitre, n'y arrivera qu'au bout. Mais entre-temps, nous y arrivons à chaque instant dans la communauté. Pas seulement les prières, toutes les mitzvot. Et le fait d'être lié à l'unité de la communauté nous assure à l'échelle individuelle, alors qu'on n'a pas encore intégré individuellement, cette sainteté de l'individu. Je me réfère à un texte que d'autre part vous avez dû étudier. Les niveaux de la vertu sont indiqués dans le nom de Yitzhak. D'abord Yachar, ensuite Tzadik, ensuite Chassid, ensuite Kadosh. Plus haut que ça, les Machelot, Ribebot, Amcha et Israël. Tout ceci est à l'abri de la communauté comme telle. Celui qui se déconnecte de la communauté comme telle perd toute chance d'assurer son cheminement jusqu'à sa sainteté individuelle. Il la perd en lui. Alors maintenant, le vrai problème, c'est où est la communauté ? Parce que la commune, côté, reste là. Alors, je vais vous dire très rapidement, d'après ce schéma-là, un enseignement que je vous ai déjà cité, d'un très grand kabbaliste qui s'appelle Ben Ish Hai, de Bagdad. Et puis peut-être on va s'arrêter là, si je retrouve les réponses. Alors, c'est un enseignement qu'il a donné dans la paracha que nous avons lue Shabbat dernier. Nous sommes bien en même calendrier, c'était Vaishlach.
Oui.
Alors, ceux d'entre vous qui ont le livre du Ben Ish Hai sur les parachiotes, sur les sidrot, vous le verrez dans la paracha de Vaishlach. Alors, il met en évidence ce changement de nom de Jacob à Israël qui se passe dans cette paracha que nous avons lue Shabbat. Okay.
Il ne faut pas nommer la porte au niveau extérieur, c'est gênant.
Oui. Ce changement de nom de Yaakov à Israël. Et il nous dit ceci. Pour que Yaakov devienne Israël, il faut deux autres dimensions. Et c'est ensemble les trois qui font ce que je vous appelle la communauté d'Israël. Alors on va le voir à travers la gamatria, mais très, très rapidement. Les deux autres dimensions, c'est Moshe et David. Qui c'est Yaakov ? C'est le peuple juif, le peuple hébreu. Le peuple hébreu, c'est les descendants de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Mais les descendants de Jacob, pas d'Ésaü, pas d'Ishmaël. C'est clair ? Et c'est le peuple. Il s'appelle encore que Jacob. Pour arriver au niveau Israël, dont parle la Bible en s'adressant à Israël, d'Aver el Béné Israël, okay, il faut ajouter la dimension de Moshe de David. Yaakov, c'est le peuple. Moshe, c'est la Torah. David, c'est la terre. David, c'est la terre, la nation. C'est clair. Reprenez toute l'histoire d'Israël.
Et alors, il nous le montre comme ça. Yaakov, ça fait 282, si je me rappelle bien, on va compter ensemble. 182. Moshe, c'est 345. David, c'est 14. Plus, ça fait Israël, 541. Et en plus, c'est comme ça. Ça veut dire, c'est Yaakov, plus Moshe, plus David, c'est Israël. Un Yaakov sans Moshe ni David, c'est un candidat à être Israël, le congrès du mondial. Un Moshe.